Suivant. Ta parole, Seigneur, nous donne la vie, et cela par ton esprit qui a soufflé cette parole et qui continue à éveiller nos esprits pour contempler ta gloire et la gloire de Jésus-Christ. Et donc, donne-nous d'être attentifs par ton esprit, parle-nous. Donne-nous de sortir de ces locaux, encouragés, enracinés dans la grâce qui est la nôtre en Christ Jésus. Glorifie ton nom, nous te prions. Amen. Alors, Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi le commandement, par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fait mourir. Ainsi, la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes, non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort, par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Alors, pour nous aider, nous allons vous présenter deux hommes. Premier homme, Il s'appelle Lévi. C'est un homme judéen du 1er siècle. Il est marié, père de 3 enfants. Il travaille dans la construction. Il aime les balades dans la Galilée, dans son temps libre. Il est collectionneur aussi de petites pièces de monnaie romaine. Il est sympa. Élevé dans la religion de ses parents, circoncis, lui, le 8e jour. Il est assez scrupuleux, même en tant qu'adulte, pour le respect des lois de Dieu. Ne pas commettre, par exemple, de meurtre. Honorer ses parents. De ne pas porter faux témoignage contre son prochain. De ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Mais il est aussi scrupuleux de respecter des lois de caractère plutôt cérémonielles, on dirait. À savoir de ne pas manger du porc, de bien laver ses mains s'il a touché un animal qui est mort, et ainsi de suite. Il sait que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, appartient à Dieu, un Dieu saint et pur. Et ces lois, les lois de ce Dieu, démontrent que son peuple était distinct de tout autre peuple, appelé par Dieu, et donc appelé à vivre différemment que les autres peuples autour d'Israël. Même si, oui, cela faisait que parfois la vie quotidienne était un peu plus compliquée pour Lévi. Lévi, un jour, grâce à un témoignage d'un ami, il est devenu croyant en Jésus-Christ au 1er siècle. Enfin, il a découvert ce que c'est la liberté de son péché, la joie de connaître qu'il est enfin en paix avec Dieu. Et avec sa famille, il a essayé, lorsqu'il a entendu parler à Jérusalem, quelques débats par rapport aux exigences imposées à ceux qui n'avaient pas d'arrière-plan juif. Mais dans son assemblée, là où lui il se trouvait, il n'en avait que très peu de ces gens de type païen, si vous voulez, ou d'arrière-plan païen. Et donc jusque-là, là où il est, il n'y a pas encore eu de discussion sur le respect ou non de quelques lois de la Torah, la loi de Moïse, que Dieu a donnée à son peuple à travers Moïse. Eux, dans leur assemblée, en tout cas, ils continuent à poursuivre les mêmes consignes d'avant. Mais ça commence à travailler l'esprit de Lévi. Qu'en est-il de ma liberté, oui ou non, par rapport à toute cette loi que j'obéissais jusque-là? Ludovic, c'est notre deuxième homme du jour. J'espère que vous ne vous appelez pas Ludovic, j'avais fait exprès de ne pas avoir un nom qu'on avait. Si c'est vous, ce n'est pas vous, vous comprenez? Ludovic, c'est un homme d'aujourd'hui, de notre époque. Il ne connaissait rien avant lui de la religion. Non, ses parents, de bons athées, ne lui ont jamais parlé. Bien sûr, il savait, lui, Ludovic, que la religion existait. Mais il a trouvé des scrupules, des religieux, un peu ridicules. De ne pas manger un Royal Crispy Bacon à McDo, c'était simplement un peu dommage pour de telles personnes. Car c'est bon si on mange un Royal Crispy Bacon. Et croire qu'un Dieu bon faisait distinction un peu arbitraire entre du porc d'un côté et d'une vache d'autre côté, c'est un peu bizarre, ça, non? Mais Ludovic, lui aussi, il est devenu chrétien aussi, invité par un ami à une soirée barbecue où il y avait de la musique jazz, c'est ça ce qu'on va voir ici, le 24 juin, mettez ça dans votre agenda. Et ce soir-là, bouche bée, il se trouve devant la pertinence du message de Jésus-Christ, qui nous lave de nos péchés par son œuvre à la croix, qui nous donne cette espérance vivante dont nous avons entendu parler la semaine dernière. Et désireux de ne plus marcher dans les vaines manières de vivre dont nous avons évoqué la semaine dernière, il est vite exposé à diverses voix sur l'Internet. Il tombe sur la chaîne YouTube d'un Ben Hagen et il apprécie ce qu'il reçoit comme enseignement là-dessus. Il regarde aussi les mini-méditations de l'Institut biblique de Bruxelles et cela lui fait du bien. Mais il tombe également sur d'autres sites. Et il est interpellé par des exhortations de mettre sa vie en ordre, de s'efforcer à, comme disent parfois ses prédicateurs, à être saint comme Dieu. Il est saint, oui Seigneur, j'ai envie maintenant de vivre comme ça. Et il trouve par conséquent que c'est utile non seulement d'être à l'écoute de la Bible, de participer à la vie d'église, mais également de mettre en place dans sa vie un système de principes, disons même des règles, qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament ou la Bible, mais qui sont quand même utiles pour aider Ludwig d'avoir une structure dans sa vie. Donc, du coup, il est au lit à 22h30, parce que ce n'est pas bien de ne pas profiter de la matinée. Il se lève systématiquement à 5h30, il lit sa Bible pour une demi-heure, il prie pour 15 minutes le matin, il décide de ne plus boire d'alcool, il encourage au moins une fois par jour une personne avec un verset biblique. Il commence à jeûner une fois par semaine, à manger moins de viande car il est soucieux pour l'impact environnemental de cela. Il est passionné par un livre qui l'a aidé avec ses 10 méthodes pour une vie de prière efficace, à mettre ces méthodes en pratique, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de tous ceux qui se trouvent dans son assemblée. Il est zélé pour ce nouveau système de règles qui lui impose. Alors, deux hommes, oui, différents, 20 siècles entre deux, mais oui, bien sûr, j'espère que vous l'entendez, quelques ressemblances, d'une certaine manière, à part le simple fait que tous les deux soient chrétiens. Alors, ces deux exemples, j'espère, nous aideront à nous repérer dans ce qui est un texte qui n'est pas le plus facile. Et peut-être vous l'avez ça en tête lorsque vous avez fait cette lecture avec moi. Mais le sujet de ce texte, et ça c'est facile à comprendre, je pense, c'est la relation du croyant, du chrétien, par rapport à la loi. Et lorsqu'on parle de la loi, ici, nous parlons de la loi que Dieu a donnée à Moïse, qu'on trouve dans les premiers livres de la Bible, Exode, Lévitique, Deutéronome. Évidemment, ce texte que nous venons de lire s'adresse plus directement à notre Lévi, celui qui habitait, lui, premier siècle, qui lui était d'arrière-plan juif, qui lui, jusque-là, a toujours respecté les consignes de cette loi. Mais Ludovic, il est aussi concerné par ce texte, vous savez. Et j'espère que nous allons voir ça ensemble à la fin. Car ce qui est vrai à propos de la loi avec un L majuscule a aussi une application importante pour ceux qui courent le danger de construire une vie chrétienne autour d'un système de loi, disons avec un L minuscule. Alors maintenant, on suit le plan que vous avez sous les yeux. Et vous allez voir dans un sens qu'il y a un seul point, même si vous voyez énormément de points. Ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est là, dans le A. Affirmation, c'est laquelle nous sommes libérés de la loi. C'est assez simple, je pense, même si par la suite, il y a des choses difficiles à discerner. Verset 6, mais maintenant, parlant des croyants en Christ, nous sommes dégagés de la loi. Car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Vous voyez le contraste? Le régime ancien de la lettre, le régime auquel appartenait la loi de Dieu, et le nouveau régime de l'esprit. Et dit ce verset, maintenant, dans cette nouvelle ère, après la venue de Jésus-Christ, après l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes dégagés, libérés des contraintes de la loi. Ce qui nous tenait captifs ici, c'est la loi. De sorte que, dit le texte, que nous étions esclaves. Mais maintenant, dit Paul, le croyant en Christ est mort à ce qui nous tenait captifs. Nous sommes donc libérés de la loi. C'est ça l'affirmation de Paul ce matin. Et pour illustrer cela, dans les versets 2 et 3, Paul soulève le cas d'une femme mariée à son époque. Tant qu'elle est mariée et son mari est en vie, elle n'est pas libre de s'attacher à quelqu'un d'autre. Elle serait appelée, dans ce cas-là, adultère. Mais si le mari, verset 3, meurt, elle est libérée de cette loi. Elle ne serait donc plus adultère en devenant la femme d'un autre homme. Verset 4 de notre texte. « De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, car par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Donc nous sommes, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, morts à la loi en tant que loi, avec un L majuscule si vous voulez. Certaines personnes proposent ici que nous devons comprendre, lorsque Paul parle d'être mort à la loi, cela dans un sens limité, que nous sommes morts à l'égard de la loi dans sa fonction de nous condamner pour notre péché. La loi condamne ceux qui sont des pécheurs. Et dans cette fonction-là, la loi n'a plus de fonction, parce que nous sommes libérés de cela. C'est ça ce qu'ils disent. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit le cas. C'est la loi de Moïse dans son ensemble qui est en vue ici, car la loi, elle majuscule en elle-même, est quelque part défaillante. À ce stade, j'aimerais proposer que nous mettions un peu dans la peau de notre ami Lévi, qui entend ce verset 6 avec nous. Lui, chrétien, mais d'arrière-plan juif, qui aime la loi de Dieu, qui essaie toujours de garder la loi de Moïse, même en tant que chrétien. Il entend Paul se proclamer sur ce sujet, et on peut en quelque sorte imaginer sa réaction. Car si Lévi suivait nos prédications jusque-là, il aurait aussi été un peu frustré d'avoir perdu un peu le fil lorsque Paul ne pouvait pas prêcher parce qu'il avait Covid à un moment donné. Et ensuite, il y avait la fête de la Pâque à célébrer pendant 15 jours. Mais s'il suivait les prédications de Paul jusque-là, il aurait suivi jusque-là avec joie d'apprendre que grâce à sa foi en Jésus, selon le chapitre 5 du livre de Romains, au lieu d'appartenir au règne d'Adam, maintenant il appartient au règne de Christ. Et chapitre 6 de Romains, au lieu d'appartenir au règne du péché et de la mort, maintenant par sa foi en Jésus, il appartient au règne de la grâce. Il aurait entendu ça, il aurait dit « Amen, quelle joie !» Mais ici, au chapitre 7, pour lui, d'entendre que nous ne sommes plus sous la loi, alors cela provoque une première réaction de sa part qu'on voit sur la liste. C'est une liste de réactions potentielles, et parfois des applications, qui débutent tous ou presque toutes avec « alors ». On entend cette affirmation, mais on se demande « alors, première question de sa part, c'est quoi ?»« Alors, la loi ?» N'est-elle pas bonne? Et Paul répond ici dans l'affirmative. Tu as raison, Lévi. La loi en elle-même est bonne. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort, verset 13? Certes, non. Non, dit Paul, Lévi, tu as raison. La loi, elle n'a jamais été mauvaise. Elle vient de Dieu. Les commandements de Dieu que nous trouvons dans la loi sont saints, justes et bons. Deuxième réaction, alors, de Lévi. Pourquoi ne sommes-nous plus, alors, sous la loi? Et la réponse est donnée dans les versets 7 à 12. Mais ce qui est dit dans ces versets 7 à 12 est anticipé dans le verset 5. Verset 5, « Lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. » La loi, en elle-même bonne, lorsqu'elle est attachée au cœur humain, au vôtre, au mien, alors cette loi provoque des passions, des péchés qui agissent dans nos membres et nous font porter du fruit pour la mort. Verset 7, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas convaincu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». C'est en découvrant la loi, tu ne convoiteras pas, que je découvre ce que c'est, pour finir, la convoitise. Et je trouve dans mon cœur cette convoitise-là. Le péché, verset 8, profitant de l'occasion de cette rencontre de la loi avec mon cœur pécheur, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Alors ici, c'est important, on l'a déjà dit dans le passé, en Romains, mais ce n'est pas que je suis innocent s'il n'y avait pas de loi. Non, je reste de base avec un cœur rebelle par rapport à Dieu. Mais c'est que la loi, excuse-moi, la loi confirme que je suis pécheur, parce que quand j'enfreins la loi, je deviens un transgresseur, je transgresse ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas faire. Verset 9, pour continuer, « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. » Verset 13, « Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort parce qu'il est bon, afin que par le commandement le péché apparaisse démesurément péché. » Dans Lévi, lui, jusque-là, qui aimait la loi de Dieu, il prenait pour acquis que parce que la loi vient de Dieu, la loi, d'office, jouait un rôle positif dans la société, dans le peuple de Dieu. Parce que cette loi limitait ou restreindrait le péché dans la société, dans le peuple de Dieu. On vient dans notre église de terminer la lecture du livre de Juges, où on voyait à la fin du livre de Juges à quel point chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Il n'y avait pas de roi en Israël, dit le texte. C'était un désastre quand tout le monde faisait ce qu'il voulait. Que faut-il lorsque nous lisons cela? Mais il faut de l'ordre, il faut un roi, c'est ça notre réaction première. Nous avons tendance à dire que lorsque la société dérape, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la discipline. Des règles claires, tous doivent respecter. Mais ici, on découvre que la loi, au contraire de ce que Lévi croyait, avait l'effet inverse. La loi a plutôt stimulé le péché, parce que cette loi s'est jointe au cœur humain. La réaction numéro 3, c'est la réaction pas de Lévi, mais maintenant c'est la réaction de Paul lorsqu'il discute avec Lévi, si vous voulez. Peut-être, cher Lévi, tu as oublié ce que c'était la vie sous la loi. il veut rappeler à Lévi l'expérience de quelqu'un qui vivait sous la loi. C'était comment, cette époque-là? Comme s'il lui dit, Lévi, mon ami, ne pense pas que l'ère sous la loi était une réussite. Non, loin de là. C'était une défaite complète pour toi, pour le peuple de Dieu. Verset 19, lorsqu'il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend, comment ? Captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il se trouve donc captif, lui, à une autre loi ou un principe à part celui de la loi de Moïse. Quelle loi ? Ben, la loi du péché qui est dans ses membres. Et cette loi avait quel effet sur lui ? Verset 24, nous l'avons lu. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps du mort ? Verset 25, à la fin, Paul résume l'ensemble de ce qu'il vient de décortiquer à Lévi. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Alors, petite pause ici. Ça va tout le monde? Il faut faire un petit coup de pouce à quelqu'un, non? Ça va? Alors, je suis conscient qu'il y a plusieurs interprétations des versets que nous venons de lire. Mais c'est... c'est l'accord, si vous voulez, qu'il y a entre ce que Paul dit ici dans ces versets 14 à 23 et ce qu'il a dit au chapitre 6 déjà par rapport au péché qui me pousse, et je ne suis pas le seul, à comprendre ces versets 14 à 23 comme étant l'expérience d'un bon Israélite, comme Lévi, qui vivait sous la loi. Donc ce n'est pas, selon moi, l'expérience d'un homme régénéré par l'Esprit de Dieu. Même si cette expérience dont parle Paul ici est écrite par quelqu'un qui ensuite est devenu chrétien, l'apôtre Paul. Et donc cette personne analyse son expérience sous l'ancienne alliance à la lumière de ce qu'il a découvert sous la nouvelle alliance. Le verset 14 parle d'être vendu au péché. Mais le chapitre 6, versets 18 et 22, en parlant des chrétiens, dit que le chrétien est libéré du péché. Le verset 23 de notre texte décrit l'auteur comme étant captif de la loi du péché. Tandis que le chapitre 8, verset 2, dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Lévi, mon ami, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas qu'en tant que chrétien, tu ne luttes pas contre le péché. Non, c'est clair que tu luttes contre le péché en tant que chrétien. Paul reconnaît cela au chapitre 6 et au chapitre 8. C'est normal, c'est attendu cela pour le chrétien. Mais lorsque tu étais sous la loi, sous le régime de la loi, tu n'étais pas en train de lutter contre le péché, mais tu étais, comme moi j'étais aussi, esclave à cette loi. Et merci Seigneur, ce n'est plus le cas. C'est ça que Paul proclame au début du verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça ce qu'exclame un chrétien, celui qui fait partie du régime nouveau de l'Esprit, que Paul va développer la semaine prochaine lorsque nous arrivons au chapitre 8. Alors, notre réaction suivante, et ici, ce n'est pas Lévi qui parle, c'est plutôt nous, n'est-ce pas? Qui est donc le moi dans ces versets 14 à 23, à 24? Oui, ici, c'est la partie peut-être la plus technique. Donc, tenez encore bon, les amis, et puis on arrivera à d'autres choses après. Cette réaction, la quatrième, qui est le moi dans ces versets, anticipe la question de Lévi. Qui est alors le moi dans ces versets? N'est-ce pas Paul? Paul, un chrétien, au moment où il écrit ceci, et d'ailleurs il écrit dans le présent, pas dans le passé. Moi, dit-il au verset 14, je suis charnel. C'est Paul qui le dit. Paul qui était chrétien au moment où il a écrit cela. Je prends, dit-il au verset 21, plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Est-ce possible pour un non-croyant de dire de telles choses? Si vous dites que c'est Paul qui parle de son expérience sous l'ancienne alliance, dont le Paul à ce moment-là qui n'était pas converti? Et as-tu oublié, continue Lévi, qu'après la victoire mentionnée en Christ au début du verset 25, Paul semble revenir une nouvelle fois vers la puissance du péché, à la fin du verset 25. Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc tu vois, c'est bel et bien un croyant donc qui parle, pas un incroyant, c'est ça. Je pense que Lévi réagit de cette manière-là, et beaucoup d'entre nous, j'imagine, réagissant si nous étudions ce texte un peu de cette manière-là. Et oui, cette question n'est pas facile. Parmi nous, il y aura des avis divergents, parmi les responsables aussi. Il faut savoir que ce n'est pas déterminant pour notre foi si nous décidons que non, c'est plutôt un chrétien qui parle qu'un non-chrétien. Mais je trouve toutefois que l'argument de Paul cadre mieux avec l'expérience qu'il avait lui-même avant de se convertir, d'être un juif sincère qui pouvait effectivement dire qu'il prenait plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur, mais qui se retrouvait esclave au péché lorsqu'il essayait de pratiquer cette loi. Ce n'est pas que le « moi » qui parle, donc ce n'est pas Paul, mais c'est Paul qui ramène le lecteur à son expérience du passé. Paul parle dans le présent pour être solidaire avec son propre peuple, avec des gens comme Lévi, avant de se convertir. Et c'est clair, déjà qu'il y a des allusions dans ce texte à Adam, et ensuite au peuple d'Israël qui recevait la loi à Sinaï. Dans les versets 10 à 11, et pour Adam, et ensuite pour Israël, la loi, la venue de la loi n'a pas apporté la vie. Non, elle a confirmé le peuple dans la mort. Que cela soit le commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou que cela soit le don de la loi de Moïse à Sinaï pour régir la vie du peuple de Dieu. Dans les deux cas, cette loi n'a pas apporté la vie, mais elle a plutôt confirmé le peuple dans la mort. Alors, question suivante. Mais, nous dit les Lévis et nous dit aussi des chrétiens, aujourd'hui, les versets 14 à 24 semblent résumer si bien mon expérience en tant que chrétien, non? Cette question, ce n'est pas Lévi qui la pose, mais c'est probablement certains d'entre nous qui la posent. Verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » C'est un verset souvent cité dans nos milieux. Je trouve, verset 21, donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Beaucoup d'entre nous, nous entendons ces versets et nous disons, bah, tu sais, c'est moi ça. Peut-être, pas tout le temps, mais souvent quand même, non? Nous restons pécheurs, après tout. Et j'ai envie une nouvelle fois de vous affirmer dans votre lutte contre le péché. Paul reconnaît l'influence que le péché pourrait toujours avoir dans votre vie. Mais toutefois, le chrétien n'est plus esclave, vendu au péché. Le chrétien, nous l'avons vu, a une toute nouvelle identité en Christ. Il n'est plus en Adam, il n'est plus esclave au péché et il n'est plus sous la loi. Et c'est justement cette identité qui l'encourage dans sa lutte contre le péché. Je vous relis juste deux versets de chapitre 6, 6 verset 11. « Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus, parce que c'est ça ce que vous êtes. » Verset 12 du chapitre 6, « Que le péché ne règne pas donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Parce que vous avez changé d'identité, alors ne faites pas ce que vous avez fait lors de votre ancienne identité. Donc la lutte, elle est encore là. Mais l'encouragement pour la lutte, c'est que par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous appartenons au nouveau régime de l'esprit. Et donc la question suivante, c'est Paul qui dit ça à Lévi. Vois-tu la joie que procure la délivrance en Christ? Lévi, rappelle-toi ce que tu as goûté en Christ en devenant chrétien, la délivrance définitive que procure quoi? La loi? Non, la foi en Jésus-Christ. Qui, verset 24, deuxième partie, me délivrera de ce corps de mort? Qui va faire ça? La loi? Non, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre plus grand désir pour vous, chers amis, c'est de découvrir cette liberté, cette délivrance du péché. En faisant encore toutes les lois? Non. En plaçant votre foi en Jésus. Donc, une fois, dit Paul, mon cher Lévi, que tu as expérimenté cette délivrance, pourquoi chercherais-tu à te soumettre à la loi de Moïse, comme si pour toi ce système t'avait procuré la délivrance? Ce n'est pas le cas. Tu sers, toi, sous le régime nouveau de l'esprit. Réjouis-toi de cela. C'est précieux. Septième question. C'est ce que Lévi peut éventuellement rétorquer à ce stade. Est-ce qu'être libéré de la loi signifie que le chrétien n'a plus à obéir à aucune loi? Paul veut-il promouvoir ici une vision où nous n'avons plus besoin des moindres consignes, des principes, des lois pour nos vies? En tant que chrétien, suis-je libre juste de faire sous le régime nouveau de l'esprit ce que je veux? Est-ce qu'il y a juste une subjectivité où, selon le moment de mon ressenti, je dis que l'esprit ne m'a pas convaincu que je dois obéir à Dieu dans tel ou tel domaine de ma vie? La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais oh là, pour le moment, je ne ressens pas que Dieu me dit cela. Je suis libre donc de faire cela. Non. Bien sûr, le Nouveau Testament a plein de commandements. Commandements d'ailleurs qui ont souvent leur racine dans certaines lois que nous avons vues dans la loi de Moïse, surtout ces lois de caractère plus moral dans la loi de Moïse. Oh, il suffit ici dans le livre de Romains de lire à partir du chapitre 12 pour découvrir toute une série d'impératifs, ce que des chrétiens doivent faire. Le chrétien n'est pas hors de toute loi. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul y parlera de la loi de Christ, telle qu'elle est exprimée dans les commandements du Nouveau Testament. Mais il répète, dans ce contexte-là où il parle de la loi de Christ, que le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse, parce que le chrétien ne doit pas se faire circoncire aujourd'hui. Mais la circoncision est dans la loi de Moïse. Le chrétien donc est sous la loi de Christ sans être sous la loi de Moïse. Pas, nous le répétons, car la loi en elle-même était mauvaise. Non, Mais parce que cette loi, en tant que loi, elle majuscule, venait dans un ensemble qui avait un principe de faire, pratiquer, obéir au centre. Si vous voulez, le verset qui résume la loi de l'Ancien Testament de Moïse, c'est Lévitique chapitre 18, verset 5. C'est répété dans Romains chapitre 10, verset 5. Que dit ce verset ? L'homme qui mettra en pratique la loi vivra par elle. Au cœur de la loi de Moïse en tant que système, il y a ces verbes faire, pratiquer, obéir. Mais ces verbes-là ne donnaient pas suite à la vie, c'est ça le problème. Et donc Paul souhaite faire comprendre aux croyants que ce système, en tant que système, faire, obéir, pratiquer, comme principe de base pour le chrétien, n'a plus de place. La loi est caduque, car elle n'a pas réussi. Le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse. Bien sûr, beaucoup de commandements de la loi de Moïse trouvent leur expression complète dans la loi de Christ. Ce n'est pas une surprise, car la loi reflète la sainteté de Dieu. Mais le système de la nouvelle alliance, là où le croyant se soumet à la loi de Christ, n'a pas pour principe central ce qui régit notre vie, faire, obéir, pratiquer. Mais a pour principe au centre la grâce, la loi sur le cœur de l'homme, le cœur transformé de l'intérieur par l'œuvre de l'Esprit. Le chrétien, voyez-vous, donc sert sous le nouveau régime de l'Esprit, renouvelé de l'intérieur par l'Esprit de Dieu pour l'obéissance à la foi. Alors ça, c'est une autre dynamique. Et j'espère, chers frères et sœurs, que vous avez trouvé cette dynamique dans votre vie. Alors cela nous mène à notre dernière question. On y est, bravo, les amis. Les versets 14 à 25, alors, n'ont rien à dire aux chrétiens ? D'abord, oui, bien sûr, parce que ces versets nous rappellent de la joie de notre délivrance en Christ. Mais aussi, et c'est ici que Ludovic, vous vous souvenez de lui ? Il entre de nouveau en jeu. Car lui, chrétien, pas du tout d'arrière-plan, juif, connaît rien dans un sens de toute la loi de Moïse. Mais lui, maintenant, il est zélé. Il cherche à être consacré à Dieu. C'est bien que l'obéissance à la loi de Moïse est probablement la tentation pour très peu d'entre nous de ne pas manger un rôti de porc, de devoir laver les mains si vous avez touché à quelque chose qui est mort, et ainsi de suite. Probablement, la plupart d'entre nous, vous n'êtes pas trop concernés par cela. Mais pour nous tous, il y a un danger en tant que chrétiens de construire un système d'obéissance, de règles supplémentaires au lit à 22h30, debout à 5h30, une heure de prière le matin. Des principes en eux-mêmes qui sont bons, qui peuvent avoir un fruit positif, bien entendu, dans notre vie. Parfois, nous avons besoin d'une telle discipline. Mais le truc, c'est que ces principes ne sont pas bibliques, ne se trouvent pas dans la loi de Christ. On les appelle parfois utiles. Mais en pratiquant ce que nous appelons utile pour nous, petit à petit, ce système commence à dominer notre esprit. Et ainsi, on remplace un système, la loi de Moïse, qui avait faire, pratiquer, obéir au cœur, la loi de Moïse, avec un autre système, avec faire, obéir, pratiquer au centre. Le tout toujours sous guise de aimer et servir le Seigneur. C'est très courant dans nos milieux, surtout pour le chrétien qui se met à servir le Seigneur avec consécration et zèle. Je viens, moi, d'un milieu évangélique du passé où un personnage important ces dernières années s'est dévoilé comme étant quelqu'un qui mettait trop de pression sur les autres dans la pratique de la foi chrétienne. J'avais moi-même des entretiens avec cet homme, mais trop d'exigences, dans un désir d'encourager la sainteté et la consécration. Il cherchait à encourager les jeunes à accepter ce qu'il appelait des punitions légères, se priver du chocolat, de bains froids, et d'autres choses comme ça. Mais tristement, cela a créé une culture de la peur pour certains, dans son église, dans son entourage. Peur de ne pas plaire à Dieu, peur de ne pas plaire à celui qui imposait ses règles supplémentaires. Et frustration ultimement avec soi pour ne pas être en mesure de maintenir ces règles. 5 à 30, c'est très bien pour un mois ou pour une semaine, peut-être juste un jour pour la plupart d'entre nous. Mais après 6 mois, 2 ans, une vie de famille, 4 enfants, 5 à 30 devient juste trop arbitraire. Et on peut prendre ça pour n'importe quelle de ces règles, aussi utiles qu'ils soient à un moment donné dans notre vie chrétienne. Ça mène à l'échec. Quand il y a toujours une tendance à imposer le faire, l'obéir, pratiquer au centre de notre foi chrétienne. Je pense à cet homme qui a écrit le livre « J'ai tourné le dos au flirt », qui était un grand classique il y a 20 ans, a vendu énormément de copies dans le milieu évangélique. Mais cet homme aujourd'hui n'est plus chrétien. Et trop de personnes ont essayé de dire, même si tu dis « Amen, tu as tourné le dos au flirt », c'est une bonne chose. Mais si les principes, les règles sont telles qu'on installe tout un système qui n'est pas dans la Bible, alors on arrive à dégoûter, à décourager les croyants. Donc, soyez prudents, chers frères et sœurs. La prochaine fois, vous prenez sur Internet ou à la librairie, pas ici dans notre librairie, bien sûr que non, mais un livre qui dit « Voici 10 règles pour avoir un enfant chrétien obéissant. » Ou « Voici 10 méthodes pour une vie de prière réussie. » Ou « Voici 10 principes pour une église qui grandit. » Et ainsi de suite. Ludovic, il devait faire attention par rapport à ça. Car nous sommes libérés de ce principe. Nous connaissons la grâce de Dieu qui nous suffit pour nous transformer de l'intérieur dans le cœur, pour vivre par l'Esprit pour la gloire de Dieu. Prions ensemble si vous voulez bien. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés dans notre lecture de ce texte. Parfois difficile, oui, mais avec ce message central de vivre sous le régime nouveau de l'Esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous de penser que l'obéissance peut mener à la vie. Et pardonne-nous également des dangers qu'il y a même dans notre milieu de proposer un système qui dépend de nouveau sur l'obéissance. Merci que l'obéissance qui compte, c'est l'obéissance de Jésus-Christ pour nous, que nous t'appartenons, que tu habites par la foi dans notre cœur, que tu transformes notre cœur pour que nous puissions te plaire. Et donc, donne-nous de vivre avec l'aide de l'Esprit pour te plaire. Et cela pour ta gloire, nous te prions. Amen.